L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Inscrire le non-consentement dans la définition pénale du viol, c'est la proposition de loi tout juste adoptée par le Parlement après le vote du Sénat qui a eu lieu il y a une vingtaine de minutes seulement. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent en rediffusion que nous sommes le jeudi 29 octobre. Plusieurs pays de l'Union européenne ont inscrit la notion de consentement dans leur législation déjà. Une définition communautaire européenne du viol devait être établie l'année dernière. Le viol se serait alors défini par l'absence de consentement de la victime. Mais la France a refusé de depuis, Emmanuel Macron a fait volte-face et s'est dit favorable à l'inscription de la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Les députés Marie-Charles Garin, écologiste, et Véronique Rioton du groupe Ensemble ont alors déposé une proposition de loi qui est désormais adoptée aujourd'hui. Mais alors la question se pose, pourquoi changer la définition pénale du viol? Quel changement concret pourrait entraîner cette loi? Et pourquoi la loi a-t-elle fait débat, y compris parmi les féministes? Pour éclairer ce sujet, je reçois des associations missionnées sur les droits des femmes et les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Bonjour Cécile Combe et Fabienne Huette.
Bonjour.
Bonjour Charlie.
Alors Cécile Combe, vous êtes coprésidente du planning familial du Mans et Fabienne Huette, vous représentez donc l'association Solidarité Femmes 72. Alors d'abord, commençons simplement. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une bonne nouvelle, cette loi votée?
Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle puisque on va se familiariser avec la notion de consentement dans les relations intimes, dans les relations affectueuses et aussi dans les relations au quotidien. La notion de consentement est extrêmement importante. Donc, ça repositionne, ça requestionne et ça repositionne le rapport à l'autre. Donc, c'est très bien parce que déjà, ça permet d'en parler.
Et Cécile, comme vous l'attendiez aussi, le vote de cette loi?
Je trouve que c'est intéressant de rajouter cette notion. Ce mot commence à être bien connu et bien employé depuis le livre Le consentement de Vanessa Springora et toutes les dénonciations de violences sexistes et sexuelles faites aux femmes récemment. Je trouve que c'est vraiment bienvenu d'ajouter le non-consentement à la situation de violence, contrainte, surprise et menace pour qualifier le viol. C'est vraiment très, très important.
Alors là, vous faites référence à justement la définition pénale du viol telle qu'elle existait jusqu'ici. Alors avant que nous ne rentrions plus amplement dans les détails, je vous propose d'écouter Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre. Elle nous rappelle quelques éléments comme la définition donc actuelle de la définition pénale actuelle du viol. Alors Audrey Darsonville, dans un premier temps, est-ce qu'on peut peut-être rappeler tout simplement la définition pénale du viol telle qu'elle existe actuellement, donc avant l'adoption de la loi?
Oui, alors actuellement la définition, c'est un acte de pénétration sexuelle qui est commis avec l'usage de la violence, contrainte, menace ou surprise.
Quelle est la limite de cette définition selon vous en fait?
Alors la limite de la définition telle qu'elle existait jusqu'à présent, c'est en fait que par principe le viol est une infraction contre le consentement de la victime, donc c'est une atteinte sexuelle sans consentement de la victime, et le mot consentement n'était pas dans la loi. Ça veut dire qu'il fallait le démontrer à rebours en utilisant les moyens perpétrés par l'auteur qui définissaient le défaut de consentement. C'est-à-dire qu'il fallait démontrer que l'auteur avait utilisé la contrainte, la menace, la surprise ou la violence pour en déduire le défaut de consentement de la victime.
Et donc la proposition de loi qui est débattue en ce moment à l'Assemblée peut être adoptée au moment où on diffusera cette interview sur l'antenne. Donc cette proposition de loi affirme que la définition pénale actuelle du viol implique une présomption de consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes et qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça n'induit pas une présomption de consentement. Mais en revanche, ça rend très difficile la preuve du défaut de consentement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On sait aujourd'hui que dans plus de 90% des cas d'agression sexuelle, l'agresseur est quelqu'un qui est de l'entourage de la victime et donc majoritairement le viol il est commis par des pressions morales sur la victime, pas par des violences physiques, et cette pression qui entraîne des effets de type sidération, donc une victime qui est dans l'incapacité de se défendre ou de réagir, et bien cette contrainte morale elle est très difficile à prouver.
Mais alors qu'est-ce que ça va changer en fait concrètement d'inscrire la définition du consentement ou dans l'état actuel de la proposition désormais du non-consentement dans la définition pénale du viol? Qu'est-ce que ça change en fait?
Alors ça change complètement le prisme au moment de l'enquête, puisqu'en fait ça veut dire que dorénavant il faudra interroger l'auteur sur le fait de savoir s'il a vérifié le consentement de l'autre et que le consentement de l'autre est un consentement libre, éclairé, rétractable, spécifique à un acte, parce qu'on peut consentir à un acte et pas à un autre. Donc en fait, ça change l'outil d'enquête pour les enquêteurs. Donc je précise bien que ça ne porte absolument pas atteinte à la présomption d'innocence de la personne qui est mise en cause. C'est simplement qu'on change de prisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher systématiquement est-ce que l'auteur a utilisé une contrainte morale. On renverse le prisme en disant est-ce que l'auteur a vérifié que la victime était en capacité de consentir.
Mais on est quand même toujours face à la difficulté qui est, on peut dire, l'accusé peut prétendre qu'il a recueilli le consentement alors que c'est faux et c'est impossible à vérifier en fait.
Alors, c'est impossible, pas tout à fait quand même. C'est-à-dire qu'il faut aussi changer un peu le modèle de l'enquête et il faut aussi que les forces de l'ordre soient dotées d'outils qui leur permettent de faire des vérifications. Bien sûr que l'auteur peut dire, et ça peut être vrai d'ailleurs, qu'il a recueilli le consentement de l'autre, mais en fait, vous avez dans la loi indiqué qu'il faut prendre en considération les circonstances environnantes. C'est-à-dire dans quelles circonstances est-ce que le consentement de la victime a pu être donné. Une victime qui est ivre morte n'est pas en capacité de consentir. Donc quand l'auteur va dire bah, en fait elle était consentante, le contexte va permettre de voir si ce consentement de la victime, on peut considérer tel qu'il est défini dans la loi nouvelle, qu'il était vraiment libre et éclairé.
Voilà, c'était donc Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre. Et je précise que cet enregistrement a été effectué quelques heures avant l'adoption de la loi suite au vote du Sénat. Cécile Combe, Fabienne Huette, est-ce que d'abord vous avez une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Je trouve intéressante cette notion de prisme. Ça complète l'identification du climat dans lequel l'acte a eu lieu. Et le fait d'insister sur les circonstances environnantes, je trouve que ça, c'est une notion qui va quand même permettre d'identifier si, oui ou non, le consentement peut être considéré comme libre et éclairé. C'est quand même quelque chose qui va être plus fin et plus subtil à considérer. On sait que c'est très difficile, ça se passe rarement collectivement. Et bon, il y a des viols collectifs, hein, bien sûr, il peut y avoir des témoins lors de soirées. Et sinon, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc c'est quand même effectivement intéressant d'affiner les méthodes d'enquête.
Fabienne, est-ce une réaction par rapport à ce que nous a dit Audrey Darsonville ?
Oui, enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que cette introduction du non-consentement dans la loi va permettre d'identifier les situations dans lesquelles le consentement n'a pas pu exister. Alors qu'auparavant, il fallait démontrer qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement quand la personne était ivre. Comme on voit à Mazan, elle était inconsciente, donc il ne pouvait pas y avoir de consentement.
On va y revenir
demain. Cette notion-là permet de fait de dire non, là, les conditions ne sont pas réunies. Le consentement n'a pas pu exister dans cette situation-là. Donc ça économise sans doute quand même un petit peu de pénibilité à la victime.
Et cette notion d'ailleurs de présomption de consentement que pointe le texte de la loi nouvelle, donc selon le texte de cette nouvelle loi, il y avait jusqu'ici une présomption de consentement dans les procès pour viol. Est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez aussi ? C'est-à-dire sur l'ancienne définition du viol, donc avant qu'on intègre cette notion de consentement, il y avait une présomption de consentement de la victime. Est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez ou pas forcément ?
Après, tout dépend comment les enquêteurs et les juges vont s'emparer en fait, de la nouvelle définition. Parce que là, ce que j'ai entendu, c'est que c'est l'agresseur qui va devoir démontrer qu'il a cherché à obtenir le consentement.
Oui, sur cette nouvelle loi, mais justement sur l'ancienne définition,
oui.
Ce qui était pointé, c'est qu'il y avait une présomption de consentement du fait que...
La personne était là, la victime était présente, qu'il y avait des circonstances qui pouvaient laisser penser qu'elle était consentante, etc.
Ce qu'on entend par là, c'est le fait de considérer qu'il y a des circonstances qui semblent affirmer que la personne était consentante. Elle a accepté de boire un verre, elle a accepté de monter dans l'appartement de la personne, et donc ça veut dire qu'elle est d'accord pour entrer et reboire un dernier verre et plus. C'était un peu systématique, ça.
En tout cas, je reviens sur un élément qu'on a cité précédemment. Cette proposition de loi a surgi assez soudainement, juste après l'affaire des viols de Mazan et le procès de Dominique Pellicot. Est-ce que vous pensez que c'est ce procès qui a déclenché le début du parcours de cette proposition de loi? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, cette affaire Pellicot? Qu'est-ce qu'elle révèle, en fait?
Alors, je crois que le projet de loi, il date de 2 ans. Ça fait 2 ans que les 2 députés sont sur ce projet. Mais effectivement, il a un écho qui est plus favorable aujourd'hui suite à la médiatisation du procès du viol de Mazan.
Suite aux volte-face d'Emmanuel Macron aussi, qui jusqu'ici n'était pas pour l'inscription du consentement et qui, après l'affaire des viols de Mazan, ça a fait volte-face.
Ça a permis une prise de conscience, en fait, de ce que pouvait être une situation de... une agression sexuelle, un viol. Et puis, ça a permis un certain nombre de prises de conscience dans la population, et les hommes et les politiques ont dû, les hommes et les femmes politiques ont dû le prendre en considération dans leur positionnement. Donc effectivement, aujourd'hui, le vote, il a été, je crois qu'il n'y a que le Rassemblement National qui...
À l'Assemblée, oui.
Qui est contre, mais l'ensemble des formations politiques a soutenu la loi.
Peut-être dans cette situation de ce qu'a vécu Gisèle Pellicot, on peut presque dire qu'il y a eu... ni violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace, dans la mesure où elle était surprise dans son sommeil et qu'elle, pendant 10 ans, elle a cru qu'elle dormait, même si elle ressentait plein de choses extrêmement préoccupantes qui ont fini par aboutir à identifier ce qui se passait réellement. Donc l'introduction du consentement dans cette situation-là, c'est important parce que, étant sous sédation, personne ne peut exprimer « je veux » ou « je ne veux pas ». Donc là, c'est effectivement... certainement une situation particulière qui a besoin de compléments, de définition du viol avec la notion de non-consentement.
Alors, on revient sur une étape importante du parcours de cette loi. Au départ, la proposition de loi, prévoyait d'introduire la notion de consentement, qui est ensuite devenue la notion de non-consentement. Et donc, on s'interroge sur l'enjeu de cette transition, parce que introduire la notion de consentement, ça avait fait débat et soulevé l'opposition, notamment d'un collectif féministe, le collectif féministe contre le viol, qui avait signé une tribune dans l'Humanité le 4 octobre 2024 contre l'inscription de cette notion de consentement. Alors pourtant, a priori, inscrire le consentement dans la définition du viol, ça paraît être une bonne idée, vu comme ça. Pourquoi ça a fait débat, y compris chez les féministes? Quels étaient leurs arguments, en fait?
Le consentement peut faire référence à quelque chose qu'on voudrait obsolète, à savoir cette idée que le désir masculin est permanent et a besoin d'être satisfait, alors que celui des femmes serait différent, plus subtil, moins impérieux. Donc ça pourrait conforter l'adage « l'homme propose, la femme dispose ». Et c'est extrêmement réducteur, ça réduit à une relation hétérosexuelle et ça ne prend pas en compte toutes les situations où il y a de la sexualité en commun, consentie ou non consentie.
Fabienne Huette.
Oui, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Cécile, c'est que ça fait perdurer cette idée qu'il y a un rapport de soumission de la femme à l'homme, puisque le viol est plutôt commis par les hommes sur les femmes. Mais la crainte des féministes aussi, c'était que la discussion se focalise sur le consentement de la victime plutôt que sur les agissements de l'agresseur. Et que lors de l'enquête ou lors de la procédure, lors du procès, on se retourne à nouveau vers la victime en disant mais est-ce que vous avez bien exprimé votre consentement, que ça focalise l'attention et que on se retrouve dans une situation de victimisation secondaire plutôt que de vraiment travailler sur les violences commises par l'agresseur et qu'est-ce qui l'a autorisé à commettre ces violences et le faire prendre conscience, etc. Donc les féministes, c'est dans ça où certaines féministes sont réticentes à cette focalisation sur la notion de consentement, parce que le consentement, il doit venir de la victime. Après, aujourd'hui, dans les relations, bien sûr que le consentement, il doit être réciproque, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent consentir et que la femme doit aussi aller chercher le consentement de l'homme dans une relation.
L'initiative.
C'est pas du tout sexué. C'est dans la relation à l'autre. On doit s'assurer du consentement de l'autre avant d'agir. Quoi.
Et donc effectivement, dans ce que nous rappelait Audrey d'Arsonville, en passant du consentement au non-consentement, c'est effectivement à l'agresseur de prouver qu'il a récolté le consentement de la victime. La définition du consentement, d'ailleurs, tel qu'il est prévu dans la proposition de loi, contient plusieurs caractéristiques. Le consentement est libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Est-ce que cette définition, elle vous semble pertinente ou bien est-ce qu'elle est trop floue, peut-être trop interprétable ?
Je la trouve elle est cadrante, elle est extrêmement théorique, mais il me paraît plus intéressant d'avoir des éléments d'observation des comportements et des paroles qui sont prononcées dans ces circonstances-là, d'avoir des éléments aussi de comment on s'assure du consentement de la personne, comment on sait que l'autre est d'accord. En tout cas, c'est en aucun cas le silence. C'est en aucun cas hésiter, être entre deux, parce que ça va faire référence aux vieux les affirmations qu'il y avait, comme quoi elle dit non, mais en fait après elle va dire oui. Et ce qui fait que beaucoup d'hommes entendent « oui » là où il y a un « non » parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir vaincre la résistance et transformer ce « non » en « oui ». Donc c'est plus intéressant, à mon avis, d'étudier un contexte, un climat, une sensation de ce que l'autre ressent, quelque chose de fin pour déterminer ce que veut l'autre par rapport à ce que moi je veux. Et partager ce que l'on veut chacun, peut-être arriver à un terme commun de ce qui convient aux deux. Et ça, ça s'apprend dans l'éducation. Enfin, peut-être en reparler après de ce qu'on peut dire à des jeunes.
Ce qu'on peut aussi préciser, c'est qu'une partie des viols ont lieu dans le lit conjugal. C'est-à-dire qu'une partie, proportion. Déjà, la grande proportion des viols sont commis par des personnes que la victime connaît. Ouais. Et ensuite, dans ces viols, il y a des viols conjugaux. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que ça se passe dans une intimité, dans une chambre à coucher, où il n'y a pas de consentement de la part d'un des deux partenaires. En l'occurrence,
je posais de la femme. Alors, puisque vous parliez justement de la situation des viols au sein des couples, en fait, ça m'amène à faire remonter l'argument de certains détracteurs de cette proposition de loi. Selon certains, notamment de la part d'Éric Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice en 2024, il parlait d'un risque de contractualisation des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
C'est une caricature.
Moi, la notion de contrat humain, ça me plaît. Le fait de pouvoir s'accorder, c'est peut-être pas le mot contrat qui va mieux convenir en termes de communication, de psychologie, etc. Mais le fait de poser des questions préalables, de s'entourer, comme pour n'importe quelle situation. On décide d'aller au cinéma ensemble, il faut se décider à quelle heure et quel film. Eh bien, il y a une stratégie de communication, de respect de soi et de l'autre qui se met en œuvre. Là, il s'agit de choses intimes qui ont des conséquences autres, mais je dirais que ça peut éventuellement se comparer.
Alors, on va parler d'autorisation ou de principe de consentement. L'argument du contrat, il vient plutôt, pour moi, d'une autre génération. Si vous discutez avec des jeunes aujourd'hui, ils ont, en l'occurrence les jeunes que je côtoie, et notamment mes enfants, ils ont intégré la notion de consentement, c'est tout à fait naturel, c'est évident, et il ne s'agit pas de faire un contrat. C'est pas un deal, c'est une relation avec de la réciprocité, du respect et s'assurer qu'on est tous les deux d'accord pour faire quelque chose. Enfin, pour aller dans un sens ou dans un autre, que ce soit dans une relation intime sexuelle, mais comme pour plein d'autres choses, en fait. C'est un principe de vie, le consentement. Et quand on commence, parce que nous, en tant que adulte expérimenté, jeune depuis longtemps, quand on commence à l'intégrer, on voit les choses autrement. Donc c'est un changement de paradigme pour les plus anciens Et, mais pour les plus jeunes, pour moi, c'est même pas une question.
Alors, on approche de la fin. Pour terminer, peut-être une question en deux temps. Alors d'abord, je vais rappeler des chiffres. En France, 75% des plaintes pour viol ou agression sexuelle sont classées sans suite. Et 1% seulement des viols donnent lieu à une condamnation effective. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné par deux fois la France cette année, en avril et en septembre, pour grave défaillance dans des affaires de viol et violences sexuelles. Alors la première partie de ma question, c'est est-ce que vous placez dans cette nouvelle loi l'espoir de mener à plus de condamnations? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez aussi que ça peut avoir une valeur symbolique, voire éducative, plus qu'augmenter simplement le nombre de condamnations? Est-ce que vous pensez que cette inscription pourrait changer les mentalités?
En tout cas, j'ai plus d'espoir dans la valeur éducative.
Que dans la valeur de condamnation.
En fait, la valeur de condamnation, ça va passer par la formation des personnels, enfin des professionnels de la police et de la justice à cette notion de consentement. Parce que s'ils restent sur leur vieux modèle, on ne fera pas évoluer les modalités d'enquête, comme l'a expliqué la professeure de droit. C'est aussi dans la manière de faire les enquêtes qu'ils vont devoir procéder différemment. Et ça changera aussi peu les décisions de justice. Donc, c'est aussi tous les professionnels qui doivent intégrer ce concept dans leur manière d'appréhender la situation. Mais bien sûr que l'idéal, c'est que tout un chacun l'intègre pour éviter derrière d'aller de commettre des agressions. Donc, ce qui est clé dans cette histoire, c'est l'éducation des jeunes enfants et des adultes, enfin des enfants et des adultes, à cette notion de consentement. Et pour ça, on a une loi qui a été votée en 2001, qui est la loi Evars, qu'il est primordial de faire appliquer tout au long de la scolarité.
Je vous laisse le mot de la fin. Donc, Cécile Combe, en tant que co-présidente du planning familial du Mans, j'imagine que la question d'éducation vous touche particulièrement.
Oui, tout à fait. C'est vraiment important, génération après génération, d'aborder ces questions de vie affective et sexuelle avec le suivi du temps, comme disait Fabienne. Et effectivement, chaque époque apporte son lot de nouveautés et de nouvelles manières d'entrer en relation. Donc, ça, c'est vraiment important que les associations puissent continuer ce travail éducatif, de sensibilisation, et les demandes scolaires affluent pour venir parler à des groupes. Et le problème étant nos diminutions de subventions, bien sûr que ce que je dis a d'autant plus de poids, d'attente, etc. Sinon, j'aimerais faire état de quelque chose qu'on rencontre dans notre vocabulaire tout le temps. Quand on entend « elle s'est fait violer », on entend avec cette forme pronominale « elle a fait quelque chose pour subir un viol ». Et si on arrêtait de dire ça, et si on disait « elle a subi un viol », quelqu'un l'a violé.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cécile Combe, coprésidente du planning familial du Mans, ainsi que Fabienne Huette pour l'association Solidarité Femmes 72. Merci à vous deux.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.